Le fentanyl continue de faire des victimes dans les prisons du Québec. Selon les dernières données qui ont été obtenues en exclusivité par Cogeco Nouvelles, il y a eu un record de surdose au fentanyl en 2018, notamment au pénitencier de Donnacona. Pour en parler, ben, nous avons avec nous Vincent Franche-Lombard, qui est journaliste de Cogeco Nouvelles. Bonjour Vincent.
Bon midi Louis.
Qu'est-ce qu'il y a dans les données qu'on a reçues? Qu'est-ce que ça démontre en fait?
Ben, il est estimé que près de 15% des détenus ont un problème de consommation dans le cadre du pénitencier de Donnacona. Ils sont inscrits au programme de désintoxication. Ça représente environ 40 détenus sur 290 et 13 cas de surdose, essentiellement au fentanyl, sont survenus au pénitencier de Donnacona en 2018, dont 9 uniquement au mois de septembre. Je vous invite d'ailleurs à écouter Stéphane Jaillet, qui est directeur adjoint des services de gestion au pénitencier de Donnacona.
C'est un nombre très élevé, plus élevé qu'est-ce qu'on a vu au cours des dernières années. Donc, on reçoit des individus qui ont déjà un problème de toxicomanie à la base et qui vont prendre à l'intérieur des murs des risques pour continuer d'en utiliser.
Et lors d'un congrès de l'Association internationale des affaires correctionnelles et pénitentiaires à Montréal cette année, deux agents du pénitencier de Donnacona se sont vus remettre d'ailleurs un prix pour rendement exceptionnel. Un des agents a sauvé 7 détenus en surdose et l'autre 6. Et faut dire que les problèmes de dépendance aux opioïdes dépassent largement la frontière du pénitencier de Donnacona. Ouais. Les paramédics d'urgence santé ont d'ailleurs été appelés à intervenir sur 160 cas de surdose de drogue à Montréal et à Laval en 2018. Et de ce nombre, on estime qu'environ la moitié serait liée aux opioïdes. D'ailleurs, dans une centaine de cas, les paramédics ont eu recours à la naloxone, qui est donc un médicament qui agit rapidement pour renverser les effets des opioïdes. On peut écouter d'ailleurs Stéphane Smith, qui est chef aux opérations chez Urgence Santé.
Bien, comme nous, c'est dans des cas bien précis. Dans un exemple que je peux vous donner, c'est un patient que c'est confirmé qu'il a consommé du fentanyl, qui est inconscient et qu'on n'est pas capable, qui est en arrêt respiratoire et on a beau essayer de hyperventiler, donc augmenter la respiration chez le patient, et il n'y a rien qui fonctionne.
Ah oui, mais c'est un problème, le fentanyl. Et dans les données qu'on a obtenues là, sur justement la consommation, les surdoses qui ont eu lieu à Donnacona, le mois de septembre 2018 a été particulièrement funeste.
Oui, avec 9 cas qui ont été recensés sur les 13 là, au cours de l'année, donc 9 seulement au mois de septembre.
Oui. Merci, Vincent.
Au plaisir.
Alors, pour essayer de comprendre ce qui se passe dans les pénitenciers du Québec et du Canada, je joins Frédéric Lebeau, qui est président régional du Québec pour le syndicat des agents correctionnels du Canada. Bonjour, M. Lebeau.
Bonjour, M. Lacroix.
C'est une préoccupation pour vous, là, hein, n'est-ce pas, la nouvelle réalité du fentanyl là, qui devient de plus en plus importante?
Effectivement, là, pour nos membres, là, c'est extrêmement épeurant. Et puis, pour les agents aussi qui travaillent, là, les civils à l'intérieur du pénitencier, c'est une drogue, là, c'est une nouvelle réalité qu'on doit faire face et qui nous inquiète grandement.
Qu'est-ce que ça change le comportement, dans le comportement, en fait, des prisonniers, le fait que plusieurs soient dépendants du fentanyl?
Ben, c'est une drogue qui est vraiment là comme la morphine ou c'est vraiment relié aux opioïdes. Donc, c'est une drogue là qui est relativement calme. Le détenu là n'a pas d'excès de colère ou n'a pas une force physique extrême. S'endort et vraiment là abruti par la drogue. Ouais. C'est juste la toxicité de cette drogue-là qui fait peur, là, qui est vraiment là 2 mg de fentanyl pur peut tuer un individu là, pratiquement sur le champ. Là. Mm-hmm. Donc, c'est vraiment la toxicité de cette drogue-là, qui est dangereuse.
Mais les données démontrent que 15% des détenus ont un problème de consommation de drogue en prison. C'est beaucoup, là.
Oh, c'est plus que ça, même.
Ah,
ça,
oui?
C'est les gens qui participent au programme. Les gens qui participent au programme puis qui font de la contrebande. Donc, ça peut être plus que ça. Là. On peut parler même de 40% là, facilement. Là.
Est-ce que vos membres sont mis à risque par cette... Parce qu'on comprend qu'il n'y a jamais personne qui est devenu plus intelligent après avoir consommé de la drogue. Là. Ça va être la même chose en prison. Alors, est-ce que ça met la sécurité de vos agents à risque?
Oui, dans le travail quotidien, quand les agents effectuent des fouilles, on a eu là, plusieurs cas. Au Québec, on a été chanceux, on n'a pas eu de cas là, où les agents ont été frappés.
Ouais.
Mais dans l'ouest du pays, il y a des agents de correction là, qui ont été contaminés au fentanyl, là, qui ont dû avoir la naloxone puis se diriger vers l'hôpital. Là. Donc, ils ont fait un overdose là, sur leur lieu de travail en fouillant là, les secteurs.
Ouais. Là, il y a des données qui ont été fournies également qui démontrent que le 28 décembre dernier à Donnacona, il y a eu une saisie qui a été effectuée. Et là, je vous fais la nomenclature. Pour vous, ça ne sera pas quelque chose de nouveau, mais moi, ça me surprend. Alors, 1456 grammes de tabac, 24,5 grammes de haschich, 420 comprimés de stéroïdes, des téléphones cellulaires, des cartes SIM, évidemment. Et la valeur institutionnelle de toute la drogue qui a été saisie, c'est 44 565 $. Ça, c'est juste pour une journée. Et ça a l'air plus facile de trouver de la drogue en prison que ça l'est dans la rue.
Oui, ben c'était le Boxing Day aussi. C'est pour ça.
Ah oui, c'est ça, probablement, oui, effectivement. Mais...
Non, ben c'est des livraisons là, qu'on voit régulièrement, surtout là, avec l'arrivée là, des microcellulaires. Les détenus là, font rentrer des microcellulaires, donc ont accès là, directement aux commandes. Là, on n'a pas besoin de passer par le système téléphonique là, du Service correctionnel du Canada.
Okay.
Donc, ça nous limite aussi dans nos actions de renseignement. Là.
Mais comment ils font? Les prisonniers, la drogue entre d'une certaine façon. On comprend qu'il y a des drones, là, puis ça, c'est un problème que vous avez déjà dénoncé, là, la présence de drones autour des prisons puis des pénitenciers. Mais à part ça, ça rentre comment, cette drogue-là?
Oh, ça peut rentrer par certains visiteurs, là, prennent de très gros risques en rentrant là, des matières interdites à l'intérieur du pénitencier. Ça peut être par des effets personnels. Les drones, vous l'avez mentionné, là, c'est un fléau. On n'a aucun outil de détection. Donc, il y a plusieurs endroits là, où la drogue peut transiter là, avant de rentrer. Les escortes, ça peut être pendant les transferts, les audiences d'un cours provincial. Donc, c'est vraiment là, un paquet d'endroits où la drogue peut transiter pour rentrer à l'intérieur.
Est-ce que ça peut arriver que du personnel des pénitenciers collabore avec certains détenus pour faire rentrer de la drogue?
Non, c'est rare. Ça arrive occasionnellement, là, comme dans chaque métier, là, ça peut arriver là, qu'il y ait des ripoux, là, mais dans les trois dernières années de mon mandat, là, c'est jamais arrivé. Là.
OK. Bon, vous avez parlé des drones tout à l'heure, là. Puis je sais que vous avez dénoncé la situation déjà. Vous dites qu'il n'y a aucun système qui a été installé pour détecter les drones en ce moment. Est-ce que est-ce qu'on se traîne les pieds au niveau gouvernemental pour essayer de contrer ce phénomène-là?
Oh, et le gouvernement du Canada est en retard dans ce dossier-là. Là. On est vraiment là, à la remorque. La technologie avance extrêmement vite dans les drones. Les drones sont plus performants, peuvent prendre plus de charges utiles. Donc, vraiment, le gouvernement là, doit installer des mesures. On parle de filets, on peut parler de détection. On a eu des tests qui ont été faits dans un établissement là, à Drummondville l'été dernier et l'autre été d'avant, en 2017. Mais ça n'a rien donné, là, ça n'avance pas, ce dossier-là. Il faut que le gouvernement...
C'était quoi ces tests-là qui ont été faits à Drummondville?
C'est des tests de détection. C'était des compagnies là, qui étaient venues là, essayer des divers tests de détection, des tests radars, des tests sonores. C'était vraiment de différentes technologies que le gouvernement essayait.
Puis ça n'a pas fonctionné?
Non, ça ne fonctionne pas, non.
OK. Parce que je sais qu'en Angleterre, il y a eu des tests qui ont été faits dans certains pénitenciers pour essayer de brouiller les ondes et même de détecter les endroits d'où décollaient les drones, n'est-ce pas?
Oui, effectivement. Bon, on l'a vu là, dernièrement, juste avant les fêtes, à l'aéroport Gatwick, là, qu'est-ce qui se passait avec les drones. Donc, c'est vraiment là, un enjeu là, de sécurité publique majeure. Là. Pas juste pour les institutions fédérales, les prisons. Là.
Mais est-ce que le problème, c'est qu'on ne met pas suffisamment de moyens pour essayer de les repérer? Ou si c'est parce que la technologie est tellement avancée qu'on n'arrive pas à suivre?
Je pense que c'est un peu des deux. C'est un manque de budget et la technologie avance extrêmement vite. Là, donc, le gouvernement a de la misère à suivre là, les nouvelles technologies qui rentrent sur le marché au quotidien.
Ouais. Comment vos agents sont préparés pour faire face à ces cas de plus en plus importants de contamination au fentanyl, là, puis de surdose, tout ça? Comment est-ce que vos agents peuvent intervenir? Est-ce qu'il y a une formation qui leur est donnée?
On a une formation de base en secourisme. On fait de la réanimation cardio-respiratoire, c'est tout. On est équipé de naloxone là, en format nasal. Donc, les gens, là, les détenus savent en plus. Ils prennent, ils savent pas la toxicité de qu'est-ce qu'ils prennent.
Ouais.
Donc, ça assure de prendre leur drogue juste avant qu'on passe, juste avant qu'on fasse une tournée ou un compte officiel pour être sûr qu'on les réanime. Donc, les 9 overdoses, on a été chanceux. Là, mais ça s'est fait justement juste avant un compte ou juste avant une ronde, là. Pour s'il arrive de quoi, ben qu'on soit capable de les réanimer.
Alors les détenus le savent, ils disent ils prennent la drogue au moment où ils savent que s'il y a un problème, ils vont pouvoir être sauvés.
Ah, effectivement, il n'y a aucun contrôle de qualité, ils ne savent pas ce qu'ils prennent,
ouais.
Ils savent pas comment c'est coupé. Donc la seule garantie, c'est de dire bon, écoutez, là, il y a un agent de correction qui va passer dans 10 minutes, ça va être le compte. Ben si je suis pas réanimé, ben il va pouvoir me réanimer. Donc c'est vraiment c'est un épée de Damoclès pour tous les agents de correction là,
ouais.
Qui travaillent.
Est-ce que, bon, évidemment, c'est plus difficile à appliquer dans un pénitencier parce qu'on fouille tout le monde pour essayer de faire en sorte qu'il n'y ait pas de drogue, là. Mais dans différents festivals, De plus en plus, on met des espèces de détecteurs là, de trucs pour analyser le type de drogue que les gens prennent, pour justement éviter d'avoir des drogues qui soient mortelles, de faire des overdoses comme ça. Est-ce que ça pourrait s'appliquer en pénitencier?
Oui, effectivement. La province de l'Ontario a fait l'achat de body scanners, des scanners corporels, un peu comme les aéroports.
Ouais.
Nous, là, on demande ça aussi au gouvernement. Le projet de loi C-83 le permet maintenant. Donc, on va suivre l'évolution du projet de loi. Mais c'est un outil dont on a besoin, justement, parce qu'un coup que la contrebande est insérée dans une cavité corporelle, ben, on n'a plus accès à ça. On ne peut pas fouiller. On ne peut pas détecter ça. Donc, ça devient difficile dans ces cas-là.
Vous n'avez pas le droit d'aller voir dans la cavité corporelle en question s'il y a de la drogue?
Non, présentement, la loi l'interdit. Ça prend une prescription d'un médecin qui prescrive un rayon X
ouais.
pour un détenu, puis il n'y a aucun médecin au Canada qui fait ça présentement.
OK, donc c'est facile pour eux autres, là, parce que ça se cache bien quand même.
Oui, effectivement. Effectivement, un coup, s'ils l'ont sur leur corps, dans leur cavité corporelle, là, nous, on devient de plus en plus restreint pour faire ce genre de fouilles-là, ce genre de recherches-là.
Bon, vous avez deux agents en Donnacona qui ont reçu une distinction cet automne pour avoir sauvé la vie de détenus. J'imagine que vous devez être fier d'eux autres?
Oui, effectivement, deux héros. Ils ne travaillaient pas seuls. Il y avait une équipe derrière eux. Il y avait plusieurs agents de correction là, qui intervenaient au jour le jour. Ça a été souligné, c'est important. C'est des gens là, qui font face à tous les jours à des incidents, de la violence. On voit des meurtres live à l'intérieur des murs. Là. Donc, ça fait du bien ce genre de récompense-là, effectivement.
Oui. Pas facile la vie à l'intérieur des murs. Hein? C'est une autre réalité. Non.
Oui, c'est une autre réalité. Ouais, c'est vraiment un monde à lui-même.
Monsieur Lebeau, merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Ça fait plaisir, Monsieur Lacroix.
Au revoir. Frédéric Lebeau est président régional du Québec pour le syndicat des agents correctionnels du Canada.